De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, nous sommes impatients de retrouver les salles de cinéma qui vont ouvrir le 22 juin prochain et nous sommes aussi impatients de retrouver de nouveau les studios. Mais en attendant, on a trouvé un moyen d'enlever les masques le temps d'une émission et de se réunir avec le confort minimum. L'interactivité entre les chroniqueurs est de retour dans Cinérama et on accueille également un nouveau membre dans l'équipe occupé à d'autres activités. Marine ne fera que des apparitions maintenant dans Cinérama et elle est remplacée au micro levé par Guillaume. Bonjour Guillaume.
Eh ben, bonjour Vincent. Et bonjour Manu.
Bonjour à tous les deux.
Donc toi Guillaume, pour ta première intervention dans Cinérama, tu vas nous parler d'un film étrange, mais ça sera l'occasion de parler de Michel Piccoli.
Oui, ben, on va parler de Thème Rock, donc c'est un film pas très connu, qui a son petit culte, parce que c'est un film, vous allez le voir, extrêmement étrange. Et donc il a son petit culte qui s'est créé dans cet univers un peu particulier de certains films, un peu underground des années 70, particulier, il est bien français celui-là.
Et ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial Michel Piccoli, puisque comme on avait quitté l'interactivité entre les membres via Skype, c'était assez compliqué à mettre en place. Cette fois-ci, on est de retour avec le blind test et vous pourrez jouer aussi avec nous. Il y aura 5 extraits de la filmographie de Michel Piccoli.
J'en compte plus d'une centaine d'ailleurs, plus de 100 films, je sais plus, 130, 140. Il est peut-être même presque à 200.
De toute façon, c'est 70 années de carrière, donc voilà. Donc voilà, ce sera l'occasion de jouer avec nous, mais pas seulement. Manu, toi, tu as deux films qui étaient sortis dans les salles et qui sont maintenant en VOD.
Notamment un qui était présenté à Cannes, It Must Be Heaven, le film d'Eli Souleymane, et puis un film qui a fait un passage éclair en fait au cinéma, Un soir en Toscane, sorti au mois de février, il me semble.
Alors, passage éclair aussi en ce qui me concerne pour Un vrai bonhomme de Benjamin Parent, film français sorti en début d'année. Et puis, en toute fin d'émission, on parlera de deux festivals qui, faute de se dérouler avec des vrais spectateurs dans les salles, vont se dérouler cette fois-ci en ligne. Et on écoutera la déléguée générale du film des très courts. Mais on commence cette émission avec It Must Be Heaven, présenté à Cannes 2019 et sorti en décembre dernier.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, précisément?
Alors derrière It Must Be Heaven, un titre ironique de quel paradis veut bien évoquer Eli Souleymane de retour derrière la caméra après 10 ans d'absence, si l'on accepte un segment du film à sketch 7 jours à la Havane, alors sans doute de manière hypothétique des terres d'accueil recherchées par le cinéaste. Après Intervention divine et le temps qu'il nous reste, It Must Be Heaven clôt temporairement un triptyque sur l'état du monde contemporain perçu à travers le regard singulier et décalé du double d'Eli Souleymane qui interprète son propre rôle. Alors, le Souleymane du film, c'est à la fois lui et un autre, un personnage de fiction emprunté au réel le plus intime de l'auteur, puisqu'il s'agit de lui-même. Un peu comme Charlot chez Chaplin ou Hulot chez Tati, des références écrasantes, mais qui trouvent une résonance juste à la vision de ce très beau film, en fait. Eli ressemble par ailleurs étrangement à Buster Keaton, silhouette un peu perdue, au regard mélancolique, observant ses compatriotes, tel un entomologiste qui étudierait les insectes. Alors, avec une élégance aussi un peu détachée et triste. Après un prologue mystérieux, presque hors propos, critique féroce de la religion, le film débute en montrant Eli au quotidien dans sa maison. Alors, vacant ses occupations journalières répétitives, lassé par sa terre natale, il fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle patrie, un peu comme le héros de Synonyme de Nadav Lapid sorti l'année précédente, mais dans un contexte différent. Il débarque dans une France dépeuplée, vidée de sa substance et de son humanité, représentée symboliquement par ce qu'elle représente finalement de moins reluisant. Même lorsqu'il filme des professionnels de la santé venant en aide à un SDF, il n'enregistre que la part mécanique aliénée de la tâche sans affect. Il croque des scénettes surréalistes, chorégraphiées à la perfection, brossant un portrait déprimant et cruel de nos sociétés égoïstes et libérales, encadrées par des lois absurdes, une répression ridicule et un culte de l'individualisme décomplexé, à l'image de cette séquence drôle et terrifiante, où les gens guettent dans un parc la chaise à subtiliser à l'autre pour son confort personnel. Ou encore ce magnifique ballet de flic poursuivant un trafiquant déposant un bouquet de fleurs sous une voiture. Alors sans fil conducteur particulier, égrené d'idées graphiques parfois sidérantes, rappelant le trait affûté de certains dessinateurs de bandes dessinées comme Marc-Antoine Mathieu, Elie Souleymane se fait le témoin de notre époque désolante, même s'il ne renonce pas à l'humanité. Alors, même constat lorsque le réalisateur s'exile à New York, il enchaîne une série de mini-sketchs cinglants et drôles, parmi lesquels on retiendra surtout le moment où Souleymane rêve d'une ville où tous les habitants, alors y compris les enfants, portent une arme, poussant jusqu'au paroxysme la dimension cauchemardesque d'une situation folle, pourtant pas très loin de la réalité. À travers son périple douloureux, sorte de carnet de voyage tragico-comique, Souleymane interroge notre place de citoyen du monde et dresse un constat sombre de la situation actuelle. Quelques éclats humanistes ouvrent heureusement une bulle d'oxygène au sein d'une atmosphère asphyxiante de nos sociétés ultralibérales, en l'occurrence ici les États-Unis et puis la France. Le regard lucide du cinéaste passe par de vraies visions de cinéma, sublimées par un sens des couleurs et du cadre, de l'utilisation des décors et des corps dans ce même cadre. Il y a un vrai travail de mise en scène dans l'élaboration de ces successions de vignettes burlesques qui reprennent souvent les motifs esthétiques du cinéma de Tati, à commencer par l'importance du son et la quasi-absence de dialogue. On est surtout bluffé par cet esprit de synthèse qui, en un plan, parvient à en dire 10 fois plus que certains en 1h30. It Must Be Heaven ressemble à un enchaînement, alors parfois trop mécanique, d'aphorismes visuels, un peu comme si Suran avait troqué sa plume pour une caméra. Mais un Suran moins nihiliste, laissant traîner quelques lueurs d'espoir, esquissé par un épilogue émouvant où le réalisateur, sirotant un verre dans une boîte de nuit, contemple une jeunesse palestinienne en train de s'éclater. Tout n'est pas perdu, se dit-on, pour ce pays opprimé depuis de nombreuses années. Alors laissons le mot de la fin à cette phrase essentielle qui résonne encore après la projection. Tout le monde boit pour oublier. Vous, les Palestiniens, vous buvez pour vous souvenir. C'est aussi la force de ce film de parler de la situation politique du pays sans jamais évoquer le conflit israélo-palestinien de façon directe, préférant la mise en abîme, les métaphores et autres allégories burlesques.
It Must Be Heaven est donc disponible en VOD actuellement. Alors dans cette émission, on va vous parler surtout de films qui ont peu performé en salle. C'est le cas de Un vrai bonhomme de Benjamin Parent, distribué d'ailleurs dans peu de salles. Un vrai bonhomme était sorti début janvier dans une indifférence quasi générale. Le film doit se rattraper en VOD et DVD. Comme nous en avions dit du bien à sa sortie, on en fait de même aujourd'hui.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
T'as perdu quelqu'un ? C'est juste qu'il est là quand j'ai besoin de lui. Il me rassure, c'est tout.
Craque pas, putain, Tom, craque pas.
Si t'as pas honte, ils peuvent rien contre toi.
Je suis dingue, Complètement schizo.
Un vrai bonhomme du d'abord scénariste Benjamin Parent explore l'injonction de la masculinité dans nos sociétés, ou disons-le plus simplement, qu'est-ce qu'être un homme quand on va quitter l'adolescence. Alors pour traiter de ce sujet, il s'empare également de la question du deuil. Nous sommes en banlieue verte parisienne, on y suit Tom, un ado sensible et plutôt réservé, davantage versé dans la littérature que dans le basket, un sport choisi par son frère Léo, à qui le père promet une belle carrière. L'un est cool, charismatique, apprécié de tous, quand l'autre est discret, voire inexistant pour son propre père. Le plus jeune est attiré par une posture qu'il ne peut prendre. Alors qu'est-ce qu'il aimerait être comme son frère ? Comme ça, son père pourrait peut-être le regarder enfin. Mais le destin va basculer. Alors il est difficile de parler d'un vrai bonhomme sans émousser ce qu'on apprend au bout d'à peine un quart d'heure et qui va donner le véritable sel au film. Je me contenterai de dire que l'influence du frère aîné va se faire de plus en plus forte auprès du jeune Tom. Son omniprésence va perturber le jeune garçon. Qui va inquiéter ses parents, car il est sujet à des crises sévères pendant lesquelles ses nerfs lâchent, ce qui n'est pas très beau à voir.
Cool et détendu.
Léo, il est avec toi là ?
Parle pas de ça ici, toi t'es dingue quoi ?
Voilà !
Tom, personne ne remplacera jamais Léo. Il sera toujours mon fils, ton grand frère, toujours. Tom, t'es courageux. C'est pour ça que tu t'en es sorti, tu m'entends ? T'es à la hauteur.
Sous un certain aspect, Un vrai bonhomme est d'abord un teen movie qui tord quelque peu les codes du genre en préférant s'attacher à un être sensible et perdu qui ne tombe pas forcément amoureux de la plus belle fille du lycée, ce qui ne la rend pas pour autant accessible. Alors sous l'emprise de son frère aîné, Tom va devoir s'en défaire et dans le même temps désobéir aux injonctions de masculinité qu'on lui transmet de manière inconsciente. Le manque d'intérêt que peut avoir son père, joué par un Laurent Lucas très sobre, suffit à perdre l'adolescent qui ne sait pas vraiment où donner de la tête. Doit-il s'intéresser aux mecs cool et virils qui sont prêts à lui en faire baver ou au premier qui lui adresse la parole avec bienveillance. Dans le film de Benjamin Parent, tous les hommes semblent perdus, le père incapable d'aimer son fils tel qu'il est, le fiston incapable de trouver sa voie car écrasé par ce qu'on attend de lui, seule la mère, qui se prénomme Ariane et pas pour rien, semble comprendre ce qui cloche et tente d'aller de l'avant. Le film est rythmé par l'omniprésence du grand frère dans de nombreuses situations parfois anodines que peut traverser l'adolescent. La mise en scène peut se faire attentive ou nerveuse tant il est question d'affrontement autant physique que psychologique. Le film est tendre avec son sujet, également avec ses personnages qui ont tous une épaisseur. Alors on sent que le réalisateur est aussi scénariste, il émane de ce teen movie une atmosphère délicate que mérite bien son sujet. Et dans ce film, vous pourrez voir eh bien, une des révélations 2020 du cinéma français, le jeune Benjamin Voisin, qui conjugue prestance et aisance tout en finesse. Cet acteur éclaire vraiment brillamment le film. On l'a vu aussi, mais moins éclatant, hein, dans La dernière vie de Simon en février, mais on le reverra aussi dans le prochain François Ozon et dans le prochain film de Xavier Giannoli qui s'est emparé de l'adaptation des Illusions perdues de Balzac. Il sera aux côtés de Depardieu et Vincent Lacoste. Un vrai bonhomme de Benjamin Parent est disponible en VOD, ce qui lui promet eh bien, une seconde carrière. Maintenant, eh bien, c'est le grand moment de cette émission puisque c'est toi, Guillaume, qui va nous parler d'un film, c'est Thème Rock. Alors, c'était ton examen de passage, tu l'as enregistré chez toi, et on va écouter donc ta première chronique dans l'émission Cinérama, Thème Rock avec Michel Piccoli.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
La disparition de Michel Piccoli fait ressurgir aux yeux du grand public tout un pan du cinéma d'avant, un cinéma français où divertissement populaire et une certaine conscience sociale n'étaient pas incompatibles. Comment ne pas s'arrêter dans la très longue filmographie de l'acteur sur cette bizarrerie totale qu'est Thème Rock ? Donc, réalisé par Claude Farlado en 1973, Thème Rock raconte l'histoire d'un ouvrier qui va se révolter contre son mode de vie et les conventions de la société en général. Vivant avec sa mère et sa sœur, il travaille comme modeste peintre en bâtiment et laisse s'écouler une routine des plus monotones jusqu'au jour où il va se faire mettre à la porte de son patron. Cet événement est le déclencheur d'un jeu de massacre social particulièrement jusqu'au boutiste. Thème Rock se révolte contre les autorités, décide de s'enfermer chez lui, détruit son appartement pour qu'il ressemble à une caverne et va régresser à un stade proche de celui d'un homme préhistorique en guise de nouveau mode de vie. Il décide de consacrer son quotidien au repos, à la copulation, y compris avec sa sœur, et ne sort que pour aller se nourrir. Son changement va fortement importuner les forces de l'ordre et les garants de l'ordre moral qui vont avoir fort à faire avec lui. Car gare à celui qui va essayer de se mettre en travers de son chemin et d'essayer de le remettre dans le droit chemin. Thème Rock n'hésitera pas à tuer et à se servir d'un policier comme viande pour un barbecue, preuve de son insoumission totale. À ce pitch, déjà fortement particulier, il faut y greffer une idée qui va donner tout son sel au film. Thème Rock se déroule durant quasiment 1h50 sans aucun mot audible prononcé. Le réalisateur, aussi scénariste de la chose, va reprendre l'intelligente idée de Charlie Chaplin dans les temps modernes, à savoir remplacer les dialogues par du bruit pour figurer le monde déshumanisant du travail. Ici, personne ne sait s'exprimer correctement. Les ouvriers grognent, les patrons ânonnent, tout le monde crie et marmonne dans une cacophonie collective. Et si le choix de Chaplin s'expliquait aussi par la volonté de s'insurger contre l'arrivée du parlant qui allait, selon lui, réduire les possibilités narratives visuelles du cinéma muet, chez Faraldo, le message est plus simple mais tout aussi clair. Le monde moderne n'est que symphonie du bruit et on a perdu le sens de la communication, du partage et du dialogue. N'attendez plus qu'un Thème Rock pour l'envoyer joyeusement bouler. Si le film de Falardo est sans concession quant à son message social, le ton et le trait y sont volontairement caricaturaux dans le but de créer une farce énorme plus qu'un pensum sur la lutte des classes. Avec un anti-héros qui déconstruit sa vie littéralement brique par brique, le mot d'ordre pourrait être « sous les pavés, la rage ». Et la rage, la bave aux lèvres, elle est là. Bête et méchant, comme le célèbre magazine satirique dont il épouse complètement les idées de gauche et le goût de la nar, Thème Rock prône la douce chanson de l'apocalypse pépère comme révolution franchouillarde de nos modes de vie dégénérés, pour ne pas dire dégénérés. Si on reprend la phrase d'accroche très forte sur l'affiche d'Assassin, le plus mal aimé et pourtant meilleur et de très loin film réalisé par Mathieu Kassovitz, toute société a les crimes qu'elle mérite. Thème Rock et les déviances qu'il met crûment en scène, le cannibalisme, l'inceste, une forme moderne d'esclavagisme et la perte de repères, sont donc des représentations littérales d'une société gangrenée que l'esprit post-68 art compte bien mettre en lumière afin de les soigner à grands coups de claque. À la manière de Chaplin, si le film qui rejette toute forme de dialogue cohérent reste quand même plaisant à suivre jusqu'au bout de son étonnante proposition de cinéma, c'est parce qu'il s'appuie sur une mise en scène dynamique et un montage alerte tirant le meilleur de son casting. En dehors de Michel Piccoli dans le rôle titre, on y croise alors la alors peu connue troupe du Café de la Gare, et le film fait ponctuellement apparaître les traits encore juvéniles de Coluche, Patrick Devers ou encore Miu Miu au détour de scénettes. Un film particulier, réception particulière, Henri Guibet raconte que quand le film est arrivé en Italie, il a été doublé comme un film normal avec de vrais dialogues inventés pour l'occasion. L'intérêt du grommelot ne touche donc pas tout le monde, même si le film remportera le prix spécial du jury et le prix d'interprétation masculine de la première édition du Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1973. Jury composé, excusez du peu, de René Clément, Juan Buñuel, Robert Enrico, Nelly Kaplan, Alain Robécrier ou encore Christopher Lee. Ce sera le vrai seul coup d'éclat de la carrière de Claude Faraldo. Mais quel coup d'éclat!
This is Cinérama. Guillaume, tu es de retour dans cette fois-ci eh bien, ce studio qu'on a aménagé spécialement pour cette émission. Déjà pour profiter eh bien, de ce qui fait le sel de Cinérama, c'est-à-dire les blind tests. Et là, eh bien, toi Manu, toi Guillaume et vous, chers auditeurs, vous allez pouvoir jouer à découvrir eh bien, 5 titres de la filmographie de Michel Piccoli, plus de 70 ans de carrière, avec quand même les plus grands films dans les années 70 et 80. Et on rappelle donc que Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans. C'était le 12 mai dernier. Premier extrait.
C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris?
Non, mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. On se voit des leçons abaissées jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer, des veules femmes qui couchent avec n'importe quoi, merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Écoute, François, écoute...
Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un coup de dimanche, petit goût à la con! Merde!
Sûrement une des séquences de Michel Piccoli les plus célèbres, en tout cas sa colère la plus célèbre au cinéma, ça a été trouvé.
Alors c'est Vincent, Paul, François et les autres de Sautet, oui. Je crois que c'est de 74, oui. C'est ça ?
Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani qu'on entendait donner la réplique à Michel Piccoli, et puis Gérard Depardieu et Michel Piccoli interprète François, un médecin désabusé. Deuxième extrait de ce blind test Piccoli.
Mais monsieur Carmelin, je m'en fous de Carmelin. Il n'y a pas de Carmelin. Mais les Stéphanie, les Petrelles, les Garde-Bois, les Lacages, toutes ces ordures qu'on connaît, qui pillent et qui tuent en ce moment sous notre nez. Ils vont continuer. Pourquoi voulez-vous qu'ils arrêtent? Puisqu'on ne peut rien faire.
Ce sont des professionnels, monsieur. Des gens qui exercent leur métier d'une façon parfaite.
Nous aussi, on fait notre métier. Du mieux qu'on peut.
Peut-être, monsieur, mais on ne sert à rien tant qu'on ne les prend pas en flagrant délit. On ne sert à rien.
Je ne sers à rien.
Michel Piccoli, qui décide d'arrêter une bande de malfrats amateurs, il leur tend un piège afin de pouvoir les surprendre en flagrant délit. Manu.
C'est encore un Sautet, ça. C'est encore. C'est une chose de pas que c'est faire ailleurs.
Film de 71. Guillaume, tu es toujours avec nous, mais. Bon, faut dire que tu as un concurrent sévère à côté de toi. Et, chers auditeurs, on va continuer avec le troisième extrait de ce blind test spécial Michel Piccoli.
Une fois, j'ai vendu un édenté, 1 000 000 francs.
Vous avez vendu un édenté?
Un timbre.
Ah, les dents. C'est une belle somme, ça. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Ah bon? Une danseuse?
Une voix. Elle m'a tout bouffé. J'étais un poésie lyrique, moi, sur les femmes qui m'ont perdu.
Oh là là. Ne parlez pas de ça.
Ça, la vôtre, elle est un peu trop jolie.
Comment ça?
Remarquez-moi, si c'était à refaire, je choisirais des femmes résignées. Des beautés intérieures.
Vous la trouvez jolie, ma rose, hein?
Un avion, elle est simple, chat. Une sans escale. Une fusée.
10 500. Ça veut dire qu'il devient cadre, notre lume.
Cadre supérieur, son rêve.
Jean Poiret qui invite pour un week-end et bien
tous
ses...
Ah, que les gros salaires lèvent le doigt.
Oui. Qui invite donc tous ses employés dans sa maison de campagne. Il cherche à déterminer eh bien, lesquels de ses cadres, donc les gros salaires, il devra licencier pour préserver son entreprise. Effectivement, c'est que les gros salaires lèvent le doigt de Denis Granier de Fer, sorti en 82. Allez, un autre extrait de la filmographie de Michel Piccoli.
Écoutez, un chirurgien qui opérerait sans la certitude absolue d'être en mesure de le faire, moi j'appelle ça un assassin.
Pas d'après le code.
Quel code? Prenez le cas du docteur Berg, dont toute la ville parle. Il a cessé d'opérer quand il a senti que ses yeux lâchaient. C'est pas une question de code.
La rétinite. n'y avait pas de rétinite. C'était pas une question de santé.
Alors c'était quoi?
Le poker. La flambe. Des dettes. Très grosses dettes. Des conneries. Je peux en parler, j'étais sur l'affaire.
Michel Piccoli, encore médecin dans ce film. Manu, t'as trouvé?
C'est dans le thriller 7 morts sur ordonnance de Jacques Rouffio.
Sorti en 1975 et il y a encore Gérard Depardieu. Enfin, je veux dire, par rapport au film de Claude Sautet, Vincent François, Paul et les autres avec lesquels nous avons commencé ce blind test. Et maintenant, il va s'achever. Alors, avec un clin d'œil déjà à l'émission et puis sans doute quelque chose de facile à trouver.
Je suis obligé de répondre.
Absolument pas. Vous êtes absolument libre de garder secrètes vos motivations. Mais...
Et remarquez, quelquefois, j'ai pas honte, quelquefois je sors dans la rue avec mon pistolet dans la poche comme ça. Je marche et je me dis que le premier qui me chercherait, je le crève à bout portant.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Cette dernière phrase est reprise dans le générique de Cinérama, le générique d'introduction de l'émission. Donc ça a été trouvé.
C'est le prix du danger de Boissé, film de 82.
83.
Enfin, le
pour
film
moi,
est de 82, mais il est sorti en France en 83.
En tout cas, les spectateurs l'ont vu en 83. C'est cette référence que nous allons prendre. Donc, tu as perdu un demi-point. Voilà, donc, film avec Gérard Lanvin et Marie-France Pizier, pardon, et Bruno Kremer. Et là, eh bien, lui, il interprète un animateur d'un jeu télévisé absolument cruel. Ainsi s'achève ce blind test spécial Michel Piccoli. On pourrait en faire à peu près toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année, mais on ne va pas le faire. On trouvera d'autres occasions, en tout cas peut-être d'y revenir sur sa filmographie. Maintenant, c'est Un soir en Toscane, film que tu avais chroniqué à sa sortie, une réflexion sur l'Europe, et tu en remets une couche, hein, parce que c'est un film qui n'a pas forcément performé en salle.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Un soir en Toscane, un quatrième long métrage du Polonais Jacek Borkuk évoque moins Beauté volée de Bertolucci, situé lui aussi en Toscane, que certains films de Bergman méditant autour de la place et du rôle de l'intellectuel dans le monde. En cela, le film pourrait être une réponse positive au désespéré La Honte. Enfin, positive, en regard de la vision nihiliste de l'auteur des Fraises Sauvages. Car Un soir en Toscane est un film assez intransigeant d'une implacable lucidité. Alors Maria Linde, poétesse et prix Nobel juive polonaise, vit au cœur de la campagne toscane, loin des montagnes, des mondanités et des conventions. Elle aspire au bonheur, à la simplicité, entourée de ses amis, sa famille et son amant égyptien. Mais le climat qui règne est plus si idyllique. La tension monte dans la vieille Europe comme dans sa petite ville où les réfugiés affluent. Alors, refusant l'hypocrisie ambiante, Maria accepte une ultime remise de prix et revient dans l'espace public avec une déclaration qui fait scandale. Alors, cette déclaration va mettre en branle non seulement la communauté qui l'entoure et la respecte, mais aussi ses proches. Elle ose comparer un acte terroriste à une ultime œuvre d'art. Alors, ultime provocation à ne pas prendre au premier degré. Mais ne retenir que ça tient de la mauvaise foi. Elle critique surtout l'immobilisme de l'Europe face aux problèmes mondiaux, écho à la politique italienne vis-à-vis des camps de réfugiés.
Co chodzisz tu, Nazira? Lubię go.
La polémique enfle et elle devient une personne non grata. Alors elle fustige pourtant avant tout la peur de l'étranger, le repli sur soi, critique même sa condition de bourgeoise. Son histoire lui donne pourtant raison, elle qui connaît l'antisémitisme à travers ses parents morts dans des camps de concentration. Alors mêlant adroitement l'intime et le politique, le film demeure un portrait réfléchi et audacieux d'une classe d'intellectuels ne souhaitant pas subir le monde tel qu'il est, mais dont le désir est d'avancer. Alors cette dimension est perçue à travers le regard de Maria, elle est soutenue par Nazer, qui représente symboliquement le peuple qui souffre, celui de l'Orient. Les rapports entre les deux amants sonnent comme une métaphore plutôt subtile du rapprochement entre les peuples, vu d'un mauvais œil par une population extérieure gangrénée par la peur et les idées reçues. Alors parfois engoncé dans un didactisme scolaire au détriment d'une écriture cinématographique, Un soir en Toscane reste néanmoins une œuvre courageuse et souvent pertinente, abordant de front l'engagement et le refus de se taire. Sa forme pêche par un côté parfois daté, une mise en scène rigide oubliant le risque et la fantaisie. Et pourtant, cette ode à la liberté se clôt par une séquence magnifique et terrible où le réalisateur fait preuve d'une inspiration visuelle qui manque à l'ensemble d'un film, on va dire, digne droit dans ses bottes, mais un peu phagocyté parfois par son discours un peu rigide, un peu figé.
Donc, eh bien, ce film est évidemment disponible en VOD pour un petit rattrapage. On termine cette émission avec des festivals qui font le choix de s'exprimer en ligne. C'est le cas du Festival des Trécourts. On a pu discuter avec sa déléguée générale, Perrine Dufourcq.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
De nombreux festivals ont dû annuler leur édition 2020, faute de pouvoir accueillir des spectateurs, mais certains ont décidé de poursuivre l'aventure en ligne. C'est le cas du Trécourt International Film Festival qui se déroule du 5 au 14 juin. Le festival, dont c'est la 22e édition, a une spécificité, hein, il n'accepte que les films de moins de 4 minutes. 122 films sont programmés pour cette édition 2020 qui va se dérouler totalement en ligne. On a le plaisir de recevoir via une conversation Zoom, Perrine Dufourcq, qui est la déléguée générale. Alors, habituellement, le Trécourt International Film Festival se déroule dans plusieurs pays du globe, mais cette année, donc, il se déroulera en ligne. Comment cela s'est-il passé pour vous ?
Quand la crise sanitaire a débuté et qu'on a vu nos festivals amis se prendre le mur directement, on s'est dit qu'il fallait s'adapter, que de toute manière, en juin, ça allait être compliqué de pouvoir avoir accès en salle à partir du 5. Bon, vous voyez, on n'a pas de chance, ça réouvre le 22. Mais ce qui s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on s'adapte absolument. Et du coup, la solution en ligne s'est vue comme une évidence, parce qu'on a le luxe de pouvoir proposer des films en ligne. Ça a été une sacrée réorganisation, tant au niveau des réalisateurs, des distributeurs qui doivent accepter que leurs films soient accessibles en ligne gratuitement, tant au niveau du coup, des lieux partenaires culturels du cinéma qui d'habitude organisent le festival. Et du coup, on a mis en place ce système de cartes interactives. Donc c'est très facile pour accéder aux films cette année. Il faudra se rendre sur le site trécourt.com, regarder le petit point sur la carte interactive le plus proche de chez vous, donc que ce soit par exemple Santiago au Chili ou Paris en France, de cliquer dessus et là vous allez voir le lieu culturel qui vous l'offre. Donc par exemple au Chili c'est le Centro Arte Alameda et à Paris donc c'est l'association Tout en Trécourt directement, c'est notre association. Vous avez un petit code à rentrer. Et comme ça, ça vous permet de voir vraiment qui, cette année, vous offre le festival.
Perrine Dufourcq, on peut peut-être revenir sur le format de votre compétition qui n'est ouverte qu'aux films de moins de 4 minutes.
Alors, c'est un format qui est très spécifique parce que, comme vous pouvez le constater, créer une histoire et provoquer des émotions chez le spectateur en 4 minutes, ce n'est pas forcément facile. Et je peux vous assurer que les réalisateurs et réalisatrices qui sont programmés cette année y arrivent. On passe du rire aux larmes, à la peur, au dégoût, à l'envie d'aller manifester. Ça passe vers vraiment tout un panel d'émotions. Et c'est généralement des jeunes réalisateurs et réalisatrices qui s'attellent à cet exercice pour ensuite se valoriser auprès d'un jury, se valoriser auprès d'autres confrères, réalisateurs, réalisatrices, des scénaristes, etc. D'avoir un lien déjà avec les spectateurs. Donc c'est vraiment un tremplin, si vous voulez, le format très court pour avoir donc déjà ce pied à l'étrier, cet exercice. C'est une très bonne école et ensuite qui peut en plus permettre d'avoir des prix internationaux et d'être diffusé sur les 5 continents.
Alors, durant cette compétition des Trécourts, vous remettez plusieurs prix, dont celui du public.
Tout à fait. Il y a le prix du public international et c'est ça qui est super. C'est que vous soyez français, kényan, chinois, canadien, une fois que vous aurez fini de visionner la compétition internationale, vous aurez la possibilité de voter pour vos 3 films préférés. Et nous, ensuite, on va dépouiller dans tous les bureaux de vote des 45 lieux partenaires culturels participants pour annoncer le lauréat du prix du public international. Donc ça, c'est vraiment chouette pour les spectateurs parce que ça permet vraiment d'être lié à tout le public tout autour du monde et ça crée une émulsion artistique et de partage et de lien et je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui.
Merci Perrine Dufourcq. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale du Trécourt International Film Festival, un festival gratuit qui se déroule en ligne.
Merci à vous et puis je souhaite à tous vos auditeurs et auditrices une très belle 22e édition du Trécourt International Film Festival.
Rendez-vous sur trécourt.com du 5 au 14 juin. On fait vite pour vous parler d'un autre festival qui se déroule en ligne. C'est aussi sa 22e édition. Il s'agit du Festival du cinéma brésilien de Paris du 3 au 24 juin. Vous pourrez voir l'ensemble des films programmés sur le site de VOD lancé par le festival l'an passé, jeangada-vod.com. Alors cela représente plus de 30 films de fiction ou documentaires. Des séances en ligne suivies de séances de questions-réponses en ligne auront lieu tout au long du festival. Et des internautes bénéficieront d'un tarif spécial festival et les courts-métrages seront disponibles pour 1 euro. Voilà, toutes les informations sont à trouver sur jeangada-vod.com.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
Nous étions bien distants d'un mètre pour se réunir autour d'une table et poser nos micros. Cinérama est de nouveau en interaction. Et donc, ce sera le cas la semaine prochaine. Guillaume, tu reviendras dans cette émission avec une chronique d'une réalisatrice que tu apprécies beaucoup.
Oui, je reviendrai avec Radioactive de Marjane Satrapi.
Et toi, Manu, deux films.
Une reprise, en fait. Hein, une sortie DVD pour le centenaire de Boris Vian, donc L'écume des jours. Et puis le film de Takashi Miike en VOD, First Love.
Et puis Marine ne nous a pas vraiment quittés, puisqu'elle reviendra avec un film en sortie VOD exclusive. Un film qui nous vient des Pays de l'Est. À la semaine prochaine.